Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Bienvenue à bord de l'émission Par ici, les sorties, dans laquelle nous parlons de culture, de théâtre, mais aussi et surtout aujourd'hui de musique. Et nous avons un invité de marque aujourd'hui, un ami de Radio Grand Ciel, c'est François Cornu, le pianiste d'origine chartraine. Je ne manque jamais de le dire, même s'il est exilé aujourd'hui en Touraine, mais c'est toujours un bonheur de vous recevoir.
Merci Christophe.
Ici dans les studios de Radio Grand Ciel pour évoquer le 20e Festival Caredas Jeunes Talents. C'est un festival que vous avez lancé et que vous dirigez de main de maître depuis 20 ans. Je ne pensais pas que ça faisait aussi longtemps.
Eh bien oui. En fait, voilà, depuis 1999 exactement. Donc, c'est quasiment 20 ans. Ça fait 19 ans, mais il y a une année double.
Ouais. Alors, c'est un festival qui porte bien son nom, Caredas Jeunes Talents. Il s'agit évidemment de promouvoir les jeunes talents. C'est des gens que vous êtes... Que vous allez chercher où, finalement, tiens ?
Dans les hauts conservatoires supérieurs, c'est-à-dire le début des études professionnelles. Donc ça peut être le conservatoire de Paris, celui de Lyon, celui de Genève, celui de Berlin, celui de le Royal College de Londres. Donc c'est assez varié. J'ai eu des nationalités assez riches, voilà, beaucoup de personnalités. Et puis souvent, ce sont aussi des élèves d'amis ou des personnes dont j'ai entendu parler ou qui m'ont contacté. En général, ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui sont donc en début de carrière professionnelle. Et j'ai le plaisir de les présenter au public parce que je les ai écoutés et appréciés.
Ouais. Alors, il est assez fréquent quand même que les artistes souffrent de narcissisme. C'est pas du tout votre cas, c'est-à-dire que vous aimez faire partager vos émotions, finalement.
Bien sûr, oui, ce sont des coups de cœur. J'ai envie de faire partager les œuvres que j'aime et finalement faire connaître aussi des artistes qui m'impressionnent, aussi bien grands que plus petits, plus jeunes, voilà. Et effectivement, le narcissisme est à bannir, je crois, dans l'art.
Alors, on va parler de la programmation au cours de cette émission. Le 20e festival a déjà commencé, hein. C'était le 13 octobre dernier à la Chapelle Royale, un concert d'ouverture. Il y a donc d'autres rendez-vous, mais avant cela, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps. Il y a plein de questions que je ne vous ai jamais posées.
Ah, allons-y.
Comment vous êtes devenu musicien? Vous devez avoir commencé la musique très très tôt, évidemment. Tout de suite le piano?
Oui, tout de suite le piano. En fait, ma famille n'était pas une famille de musiciens, mes parents un peu mélomanes, alors il y avait quelques bons disques, mais surtout j'avais des frères et sœurs, trois, qui touchaient au piano bien avant moi. Moi, je suis le dernier de la famille de quatre enfants, et ça m'a permis, je crois, c'est une grande chance, dès ma naissance, d'entendre mon frère de 9 ans plus âgé, qui jouait déjà du piano, évidemment. Et j'ai des souvenirs qui remontent sans doute à ma petite enfance, je ne sais pas, à 4 ans, 5 ans, où j'écoutais mon frère aîné jouer la sonate pathétique de Beethoven. Et je vois encore, j'entends les passages qu'il travaillait, et je vois encore à ma hauteur les touches blanches qui s'abaissaient. Et c'est du jeu, en fait, hein. Bon, j'étais peut-être fasciné. Ensuite, je me suis mis naturellement au piano, sans doute qu'à 5 ans, 6 ans, je pense que je tapotais. Et puis, mes parents m'ont proposé des cours à partir de l'âge de 7 ans. Voilà, 7 ans et demi, j'ai commencé, ce qui est un bon âge.
Ouais. Et puis après, moi je me dis à l'adolescence, souvent on s'intéresse à autre chose, parfois même à d'autres musiques.
Et tant mieux,
mais vous, non, vous aviez ça dans,
oui,
voilà, dans le sang.
Oui, c'est vrai que c'est assez... Bon, j'ai touché bien sûr à la musique plus jazzy, musique de variété, bien sûr, j'achetais beaucoup de partitions. J'avais des professeurs qui me faisaient découvrir beaucoup de styles de musique. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire, en fait.
Ouais. C'est moi qui vous disais, oui, à l'adolescence, souvent, on se met, je ne sais pas, on écoute du
rock. Oui, voilà,
écoute,
c'est ça que je voulais vous dire.
On est en rupture par rapport aux parents, par rapport à...
Alors non, moi, je ne l'étais pas, parce que mes parents n'étaient pas spécialement plus mélomanes que ça. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que quand même, France Musique, je pense à 12 ans, 13 ans, 15 ans, j'avais des cassettes à l'époque. Et j'enregistrais plein de concerts et des grandes versions qui passaient sur l'antenne. Voilà, des grandes émissions aussi, ceux qui se rappellent des critiques de la tribune des critiques de France Musique, qui existe toujours. Et j'étais fasciné par ces versions-là. C'est comme ça que je me suis fait vraiment ma culture musicale à l'adolescence. Donc j'étais quand même assez passionné quand même de toute façon par cette musique. Au départ, très romantique, hein, Chopin, Liszt, Rachmaninov.
Dès le début, Chopin, oui. Ça, c'est vraiment le musicien qui a compris.
Oui, mais c'est aussi la relation un peu passionnée, fiévreuse avec un professeur, une femme qui me faisait vraiment découvrir, avec son âme slave, qui me faisait découvrir les rhapsodies hongroises de Liszt, les grandes ballades de Chopin, les concertos de Rachmaninov. Et je dois dire que découvrir ça tout neuf, ce sont des chocs. Moi, le deuxième concerto de Rachmaninov, je crois que je me suis levé en pleine nuit à 1h du matin pour l'enregistrer sur mon petit radiocassette.
Et ah là, le lendemain matin, on enregistre des matchs, vous vous rendez compte.
Voilà. Non, mais j'aimais aussi le tennis et le foot, et je pratiquais le football et le judo. Donc j'étais un enfant comme un autre, je pense, pas spécialement isolé dans sa bulle, mais voilà, j'avais déjà cette sensibilité, ouais. Et puis j'ai développé ça... naturellement, avec une scolarité jusqu'au bac, 18 ans, et je suis rentré à l'École normale de musique de Paris, qui est une grande école qui forme des virtuoses sous l'appellation École Alfred Cortot, qui était un grand maître, hein, bien sûr. Donc j'ai rencontré aussi des grands professeurs qui m'ont fait évoluer techniquement beaucoup.
Il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Est-ce qu'il y a un moment où l'on se sent devenir un artiste, en fait?
Quand on est artiste, à mon avis, c'est quand on est créateur. L'interprète musicien, il recrée l'œuvre, on peut dire. Donc, ce que j'attends aussi de mes jeunes talents, ce n'est pas de faire une belle réalisation d'une œuvre qui est écrite, soit. Comme disait Raymond Trouard, un de mes professeurs du Conservatoire de Paris, le texte n'est qu'un prétexte. Ça veut dire qu'en fait, on utilise un texte musical avec ses indications et que finalement, on en fait ensuite un petit peu ce que l'on veut avec sa sensibilité tout en respectant le style.
Ouais.
Et donc, pour revenir à votre question, voilà, je pense qu'on est artiste quand on crée et moi, je me suis senti toujours très libre, ouais, au piano, à l'encontre de certains professeurs, hein, qui n'aimaient pas trop ma liberté. Et c'est assez étrange parce que finalement, depuis mes 15 ans où je jouais déjà le concerto numéro 2 de Chopin en fa mineur, je pourrais dire que 20 ans après, je le jouais pratiquement de la même manière, malgré les conseils de professeurs,
ah oui,
de grands maîtres.
Donc il y avait déjà une personnalisation.
Je pense que j'avais, oui c'est ça, une facilité pour appréhender une œuvre, en tout cas Chopin, ça c'est sûr. Après, pour aborder Haydn, Bach, Mozart, Beethoven, c'est un style plus rigoureux. Et là, il faut des connaissances, il faut avoir étudié l'histoire de la musique, l'harmonie, et puis les grands maîtres aussi, avoir écouté beaucoup.
C'est
la culture discographique, ouais, en fait.
Hein. C'est l'autre question que je voulais vous poser, parce que quand on fait, par exemple, de la poésie ou qu'on écrit, etc., il y a un moment ou un autre, on admire tellement un auteur, on commence souvent par imiter, plus ou moins. Est-ce que vous avez eu, vous, un interprète que vous souhaitiez, dont vous souhaitiez vous rapprocher finalement dans votre manière d'exécuter ?
À une époque, c'est vrai que dans mon adolescence, j'écoutais beaucoup Arthur Rubinstein. Je me procurais, dès que j'avais un petit peu d'argent de poche, les 33 tours, toute sa collection de 33 tours, des nocturnes, des valses, des impromptus. Et j'étais heureux de les acquérir, voilà. Donc j'avais cette collection d'une dizaine de 33 tours qui m'ont marqué. Et l'univers chopinien de Rubinstein est un univers de grande élégance, il n'y a aucun maniérisme, c'est vraiment la pureté du style, l'éloquence naturelle. Je dois dire que je me sens plus proche peut-être d'un Samson François malgré tout, c'est venu plus tard, qui est plus fantasque, plus fantaisiste, et qui chante énormément. Ce que disait Jean-Claude Penthier, qui est un de mes grands maîtres aussi, quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est que il disait qu'au départ, il souhaitait que la musique chante avant tout, et il se rendait compte par la suite qu'il fallait qu'elle parle avant tout, c'est-à-dire qu'elle raconte quelque chose. On disait de Samson François que c'était un grand conteur, et... voilà, c'est ce que je souhaite maintenant, c'est raconter plus et pas forcément chanter et s'enivrer de musique. C'est le langage musical, c'est un langage qui véhicule voilà, des sentiments, des sensations, des idées. Et voilà, quand j'aborde une ballade de Chopin qui dure 8-10 minutes, j'ai l'impression d'embarquer comme sur un grand tapis qui pourrait voler. J'embarque dans des paysages un peu rares, mon public, et je le sens.
Ouais.
Je les sens venir avec moi. C'est des bonnes, belles sensations.
Mais pour compter l'histoire, comme vous le dites, pour parler, pour la dire, il faut l'avoir entendue soi-même. Donc il faut avoir.
Oui, il faut avoir beaucoup d'imagination, je crois. Ça fait partie aussi du talent d'un artiste. Hein. Et souvent, les premières sensations, quand on aborde une œuvre, sont souvent très justes. Souvent, je les note. Voilà, des sensations de couleur, de timbre, de sensations tactiles, parfois même de velours, je sais pas, enfin, musique aérienne, fluide. Moi, mon jeu est assez fluide et assez aérien, et il convient assez bien pour la musique française, la musique de Chopin et celle de Mozart aussi. Je crois, voilà, ça c'est ma sensation avec beaucoup d'expérience maintenant. Je crois que je suis moins doué pour les sonates de Beethoven et pourtant ça me fascine tellement que j'ai quand même envie de les aborder et puis d'apporter peut-être quelque chose de différent.
Merci beaucoup François pour tous ces éclaircissements.
C'est passionnant, moi j'aime discuter de tout cela bien sûr.
On va peut-être écouter ta
oui.
musique, on parlait de Chopin.
Oui.
On va vous écouter
D'accord.
jouer Chopin, c'est un album que vous avez donc publié il y a quelques temps déjà. Qu'est-ce qu'on va entendre ?
Une grande valse brillante.
Une grande valse brillante. On écoute Chopin. Voilà, c'était la grande valse brillante de Chopin. Une dernière question sur Chopin. Ça pourrait être un autre, mais quand on joue Chopin, est-ce que vous pensez à lui ? Est-ce que vous essayez de devenir Chopin ? Pourquoi pas, peut-être écrivant la musique ?
Oui et non, mais c'est vrai que je ressens assez finement les sentiments, les sensations que Chopin a voulu transmettre, notamment par exemple dans sa correspondance. Je trouve ça même un peu presque malhonnête, un peu de rentrer dans l'intimité de, comme cela, d'une correspondance qu'il n'a pas souhaitée publique, bien entendu. Et ce qu'il écrivait, ce qu'on n'écrit plus nous maintenant, hein, on est avec nos petits textos et surtout beaucoup de téléphones, et on écrit beaucoup moins. À cette époque-là, on écrivait beaucoup, et ce qu'il écrivait, j'avais la sensation parfois de pouvoir le ressentir et avoir envie de l'écrire aussi. Récemment, là, j'ai joué chez des amis, comme ça, en fin de soirée, un nocturne de Chopin, et il y avait une suspension, il y avait un moment de grâce, et je pensais à Chopin qui pouvait, dans ses fins de soirée, on le dit, hein, les personnes de l'époque racontent que Chopin, au début, était un petit peu timoré ou un petit peu fermé, et puis il s'ouvrait, peut-être en bon polonais, peut-être avec un petit peu de boisson, et au fur et à mesure de la soirée, il se mettait au piano, et puis après on ne pouvait plus l'arrêter, et là il y avait une sorte de magie, puisqu'il improvisait. C'était un très grand improvisateur, qui avait beaucoup de mal, sans doute, après, c'est ce que raconte George Sand, de fixer réellement la belle version, la version définitive sur le papier, parce qu'il l'écrit au départ, et puis après il veut la remanier, et puis il y a des variations, des possibilités innombrables.
Il donc, était un peu jazzman alors, non?
Oui, d'une certaine manière, c'est une manière de créer à partir de l'improvisation, alors que Bach et Beethoven étaient certainement plus intellectuels à écrire, comme on dit, à la table, c'est-à-dire sans instrument. Ils écrivaient de tête, et Beethoven, sourd, composait ses quatuors à cordes, ses symphonies, de manière géniale, en entendant la musique, en l'entendant dans sa tête sans la jouer au piano. Ouais. Chopin, c'était un improvisateur, il composait au piano avant de le restituer sur le papier. Voilà, donc j'ai parfois là cette sensation de pouvoir retrouver un peu l'émotion profonde d'un Chopin devant une œuvre qu'il crée.
Ouais.
C'est une chance.
Est-ce que c'est important, par exemple, comme un acteur va interpréter un personnage, avant d'interpréter le personnage, il va essayer de grappiller des informations sur le personnage, il va lire des choses, voir des choses. Et est-ce que c'est important de connaître l'histoire, peut-être, d'un compositeur pour l'interpréter?
Plus ou moins. On peut tout à fait capter l'essentiel, l'essence du compositeur avec son œuvre, parce que tout est restitué là. C'est toujours intéressant, hein, de connaître les contextes d'écriture, de composition, notamment quand Mozart compose un opéra important, dans quel état d'esprit il est, dans quel état matériel, de vie amoureuse ou pas. On sait que, par exemple, il composait pour des chanteuses, et pas n'importe quelle chanteuse, des chanteuses qu'il admirait ou qu'il aimait. Donc, et puis celle à qui il voulait faire une petite vacherie, il lui mettait des virtuosités épouvantable. Chopin était un amoureux aussi des chanteuses.
Ouais.
Il fait chanter son piano, lui. Il n'a pas beaucoup composé pour la voix. Hein. Il y a une vingtaine de très belles mélodies polonaises, mais c'est tout. Mais c'est le chant au piano.
On va parler donc de ce 20e festival Caredas Jeunes Talents que vous avez créé il y a 20 ans,
oui,
et qui continue d'exister, et c'est tant mieux pour les jeunes instrumentistes. C'est difficile pour un jeune instrumentiste d'émerger aujourd'hui?
Ah oui, certainement, certainement. Alors bon, il y a une petite part, un petit pourcentage de jeunes solistes qui sont mis en avant, et puis les autres, ben, ils sont souvent soit un peu moins doués au niveau de la communication, donc ils vont moins facilement chercher des concerts ou se vendre, parce que c'est quand même un métier où il faut savoir se vendre aussi, et relationner surtout. Beaucoup d'artistes restent un peu dans leur bulle. Moi, c'est pas mon cas, c'est vrai que j'ai une tendance à aller vers les gens et à dire mon plaisir de présenter certaines œuvres. Alors je suis allé effectivement voir les adjoints et des villes de Chartres, de Dreux, du conseil départemental d'Eure-et-Loir aussi, pour créer un festival de tremplin, en fait, un tremplin pour ces jeunes artistes que j'admire, certes, pour la plupart. Et au total, déjà, en 20 ans, en 20 éditions, en tout cas, on est à plus de 80 artistes.
80 artistes,
bah oui. Et certains font une très belle carrière. David Bismuth, Shani Di Luca, François Dumont, François Lazarevitch qu'on va entendre, ce sont des noms maintenant qu'on entend et qui se sont illustrés dans les concours internationaux ou pas, et qui jouent maintenant avec l'Orchestre National de France, qui jouent de la Roque d'Anthéron au Folle Journée de Nantes. Vous voyez, alors je suis heureux, moi, de les rencontrer, parce qu'ils ont 20 ans de moins que moi, 20, 30 ans même, parfois, et pour moi, ça me permet de rester dans cette famille de musiciens aussi.
Ils vous reparlent, de, quand vous les revoyez, du festival Carénas?
Oui, bien sûr, ouais. Oui, bien sûr.
Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, je le disais, le concert d'ouverture a été donné le 13 octobre dernier à la Chapelle Royale de Dreux. Et puis, le 9 décembre, il y aura donc à 20h30 à la salle du Sino à Chartres une création dont vous allez nous parler. Chopin Forever. Décidément, on parle beaucoup de Chopin.
Oui. Donc, j'ai pris contact avec la professeure de danse contemporaine du conservatoire à rayonnement départemental, on va dire, de Chartres, Nathalie Tissot, qui est danseuse et chorégraphe, et je lui ai dit que j'aimerais éventuellement qu'elle fasse une adaptation, une sorte d'interprétation en danse contemporaine, non pas en danse classique et en danse de salon, des valses de Chopin. Après, on a agrandi un petit peu le cercle sur les nocturnes, la troisième ballade et même une étude, et je lui ai demandé de s'associer à des jeunes danseurs. Donc elle a une partie de sa classe de danse contemporaine qui va participer à ce concert, ce spectacle. Et donc, ce sera la première fois que nous aurons des jeunes talents danseurs dans le festival Caritas Jeunes Talents.
Ouais. Vous aimez bien dialoguer d'ailleurs avec les autres artistes. Vous l'avez fait avec la Carmen des Poètes, par exemple, autour des mots. Et là, la danse aussi vous intéresse beaucoup.
Bien sûr, oui. La poésie, la littérature, les comédiens, Emmanuel Rey, la troupe du théâtre en pièces, Marie Poumara, j'ai des très beaux souvenirs de spectacles effectivement avec ces artistes différents, voilà, du monde musical. Donc ça, c'est le samedi 9 décembre, salle d'Oussino à 20h30, et on est en train de créer ce spectacle avec un fil conducteur et la jeune Léa Doussin qui est une jeune professionnelle et qui est la fille de Nathalie.
Voilà, donc, alors, on doit réserver, bien évidemment, c'est au 02 37 23 42 79, c'est le numéro de téléphone du théâtre de Chartres. On peut aussi réserver à réservation.doucino@aglo-ville.chartres.fr, mais je redonnerai tout ça en fin d'émission. Et puis le dimanche 10 décembre, il y a un concert Allegretto, c'est à l'auditorium de l'Odyssée.
C'est à Dreux, c'est à 17h, c'est un dimanche, donc et traditionnellement, pratiquement une fois par an, donc je laisse la place à des jeunes talents des conservatoires et écoles de musique d'Eure-et-Loire. Donc le niveau est moindre, bien entendu, mais beaucoup de professeurs qui sont des collègues, hein. Moi je suis professeur depuis 25 ans au conservatoire, à l'école de musique de Lèves, à côté de Chartres. Beaucoup de ses amis, collègues et musiciens éminents sont souvent de grands musiciens, en plus d'être professeur, et me confie quelques-uns de leurs très bons élèves. Donc ils ont 12 ans, 15 ans, 18 ans, peu importe, et violon, chanteur, pianiste, trompette, on a un peu tous les instruments, et encore une fois, voilà, on va faire une sorte de jolie fête. Alors c'est entrée libre cette fois, et je les présente, pour la plupart je les accompagne aussi, hein. Donc et c'est du plaisir de voir ces jeunes s'impliquer complètement avec leur adolescence, oui, être malgré tout complètement engagé, oui, dans la musique classique. Alors la musique classique ou la musique jazz d'ailleurs, hein, j'ouvre tout à fait pour ces deux styles. Et c'est arrivé effectivement qu'on ait des musiciens de jazz aussi. Et parfois, c'est arrivé que certains jeunes talents, ça va se faire bientôt, par exemple de la loupe, une jeune gambiste, viol de gambe, Anne-Sophie Esley, jouera l'année prochaine, en 2018. Dans le vrai festival.
Donc ça, c'est une découverte.
Mais oui, c'est une découverte de notre territoire d'Eure-et-Loire. Et maintenant, elle a 20-22 ans. Elle est dans le Conservatoire National de Supérieur de Musique de Lyon. Et je lui ai promis de la présenter dans le festival Carédas, dans les grands. dans les futurs grands en tout cas. Donc,
Est-ce que parmi justement les 80 instrumentistes que vous nous avez donné d'entendre depuis 20 ans, est-ce que certains venaient d'une école aurélienne?
Certains, tout à fait. Je n'ai pas les noms, mais certains du conservatoire de Chartres, violon, alto. Il y a des bonnes classes. Voilà. Hein,
vraiment. Donc n'hésitez surtout pas à aller emmener vos enfants dans les conservatoires, les écoles du département.
Le jeune pianiste de jazz aussi que j'ai présenté pour les 10 ans ou 15 ans du festival, Baptiste Crespin, Bidara. Excellent. Élève d'Antoine Delaunay et de Jean-Jacques Roulman. Formidable. Et je l'ai présenté dans le festival et j'espère le faire rejouer du reste. Hein. Il est un excellent improvisateur, vraiment. Il est passé par le Conservatoire de Paris, voilà. Or, beaucoup d'élèves d'Eure-et-Loire font leur carrière aussi, rentrent au Conservatoire de Paris et font une carrière maintenant.
Alors, il nous reste un dernier rendez-vous à donner, c'est le vendredi 22 décembre. C'est à 20h30 au Théâtre de Chartres. Et allez, parlez-nous de ce spectacle qui est vraiment le clou du spectacle.
Mais oui,
du festival.
En fait, c'est une co-réalisation avec le Théâtre de Chartres et Jérôme Costeplan me fait confiance pour une belle programmation dans le cadre des abonnements, donc des concerts prestigieux du théâtre. Et je lui ai proposé le flûtiste baroque François Lazarevitch, qui joue aussi de la cornemuse et des musettes. C'est un gars extraordinaire qui a créé un ensemble qui s'appelle les Musiciens de Saint-Julien. Et il joue aussi bien de la musique irlandaise que de la musique baroque, de Telemann, etc. Et là, nous sommes avec Vivaldi, et il a fait un disque récent, donc on va pouvoir écouter un petit extrait, la noter, c'est un concerto très électrisant, il y a une vigueur, une vivacité, alors il y a les instruments, ils sont neufs, hein, viol de gambe, je crois, deux violons baroques, le violoncelle baroque, les flûtes, et puis lui à la flûte traversière baroque, le traverso comme on dit, il joue avec beaucoup de virtuosité les traits du violon habituels. Donc dans les quatre saisons de Vivaldi, les quatre concertos bien connus avec nos quatre saisons, et puis plusieurs concertos.
Donc une grande soirée.
Ah oui, là c'est vraiment à ne pas manquer, hein, le 22 décembre, dernier concert de la, je pense, de l'année au théâtre, il me semble. Et et c'est vraiment un super, vraiment il fait une très belle carrière. Je suis heureux de l'avoir déjà présenté deux fois
vous
et
l'avez présenté.
De lui offrir le concert du 20e anniversaire.
François, merci beaucoup, on arrive au terme de cette émission. Je rappelle que pour ces concerts, il faut réserver au 02 37 23 42 79 ou billetterie@theatredechartres.fr, billetterie@theatredechartres.fr. On va se quitter avec vous avez encore choisi
Vivaldi.
Musique avec Vivaldi.
Vivaldi avec l'ensemble des musiciens de Saint-Julien.
De Saint-Julien.
Pour le 22 décembre.
Voilà, une petite écoute apéritive, on va dire.
Merci beaucoup, Christophe.
Merci à vous, merci à Simon à la technique et à très bientôt pour une nouvelle édition de Par ici les sorties.